effectivement, il faut que les États se parlent, mais quand même réhabiliter quelqu'un qui est impliqué de façon directe dans l'assassinat d'un journaliste et d'un défenseur des droits, ça, c'est un petit peu choquant.
Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde, 10 minutes pour tout comprendre sur un fait d'actualité. Bonjour Nicolas Poincaré.
Bonjour Pierre Kouan.
On l'appelle MBS, mais son petit nom c'est Mohamed Ben Salman. Le prince héritier du royaume d'Arabie Saoudite est en visite en France. Hier, au banc de la communauté internationale, il est aujourd'hui l'un des hommes les plus courtisés de la planète. Comment? Pourquoi? On vous explique. La barbe est bien taillée, les yeux rieurs et le carnet de chèques à portée de main. Mohamed Ben Salman veut incarner la nouvelle image de l'Arabie Saoudite. Il est en France pour une visite presque surprise. Il sera même reçu par Emmanuel Macron qui a bouleversé son agenda pour le recevoir. Pourtant, MBS a une réputation pour le moins controversée. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec toi, Nicolas.
Alors, on va voir pourquoi il a improvisé effectivement ce séjour très long. Ce qu'il va faire en France, et notamment les invraisemblables propriétés qu'il a en France et donc peut-être il profitera. On verra aussi pourquoi il a longtemps été un paria et comment, ces dernières années, il a réussi à revenir dans le jeu. Et puis enfin, on parlera des changements dans son pays. L'Arabie Saoudite était le pire pays pour les droits des femmes. Ça va quand même nettement mieux.
Expliquez-nous le monde.
Un podcast RMC.
Nicolas Poincaré.
Pierre Courade.
10 jours de visite, une arrivée avancée pour profiter au mieux des charmes de la France, mais pas seulement, Nicolas.
Oui, alors effectivement, c'était inattendu et c'est assez inhabituel en matière de diplomatie, de politique internationale. Une visite d'État, c'est 2, 3, 4 jours. Là, le prince Ben Salman, dit MBS, a décidé de rester 10 jours pour profiter de notre agréable climat français. Alors, au programme, il va être reçu par Emmanuel Macron, qui effectivement a dû bouleverser lui-même son agenda pour pouvoir le recevoir. Il va aller au salon du Bourget, parce qu'il aime beaucoup les avions, mais surtout parce que l'Arabie Saoudite est en train de lancer une nouvelle compagnie aérienne ultra-moderne avec des avions dernière génération. Il va, et c'est sans doute le plus important pour lui, participer à des événements pour assurer la promotion de la candidature de l'Arabie Saoudite pour organiser l'Expo universelle de 2030. Ouais. Ça, c'est très important pour lui parce que ça pourrait être un événement mondial qui ferait revenir l'Arabie Saoudite un peu sur la scène internationale, qui ferait venir des touristes, ce serait très important.
Et en faire une vitrine.
Voilà. Et il se trouve que l'organisme qui attribue les expos universels est à Paris. Donc il va profiter de son séjour pour faire du lobbying et essayer de défendre sa candidature. L'Arabie Saoudite n'est pas le seul candidat, notamment l'Italie qui voudrait aussi. Et puis il y a un sommet économique qui était prévu par la France et qui était au départ la vraie raison de sa venue, qui aura lieu une dizaine de jours seulement après son arrivée. Si bien qu'entre tous ces événements, on peut imaginer que Mohamed Ben Salman pourra profiter de ses propriétés. Il est question d'un court séjour dans le sud. Ouais. Son grand-père, le roi Fahd, avait fait construire racheter une magnifique, somptueuse villa à Valoris, dans les Alpes-Maritimes. Le roi Fahd venait presque tous les étés. Il venait avec sa suite, c'est-à-dire environ 1000 personnes.
Ah oui, quand même.
Ouais, certains étaient logés dans l'énorme villa, les autres monopolisaient tous les palaces de la Côte d'Azur. C'était à chaque fois des événements considérables. À chaque fois, on privatisait la plage et on interdisait aux bateaux de venir
d'accoster au large. Voilà.
Donc c'était un événement. Est-ce que MBS profitera de la maison de son grand-père? C'est assez probable, puisqu'il a fait savoir qu'il irait dans le Midi. Et puis, il profitera aussi peut-être d'une villa tout aussi invraisemblable qu'il a acheté en région parisienne, dans les villes.
Un château.
Voilà, ça s'appelle Louis XIV. Voilà. Ça a été construit en 2011, donc c'est tout neuf, mais construit selon les techniques de l'époque de Louis XIV. C'est une sorte de petite copie du château de Versailles. Et au moment de sa vente, ça avait été présenté tout simplement comme la villa la plus chère du monde, puisqu'elle était partie pour 275 millions d'euros. Donc voilà, les Saoudiens, à un moment, ont voulu faire construire une sortie privatisée de l'autoroute et une entrée qui leur aurait permis de gagner beaucoup de temps.
Tant qu'à faire.
Ils n'en ont pas eu le droit. Donc ils continuent à sortir par la même sortie d'autoroute que tout le monde, vers Bois d'Arcy pour rejoindre le Enfin bref, voilà le programme.
On pourrait prendre l'hélicoptère quand même, aussi.
Et, oui, mais
c'est moins écolo.
Et puis pour venir à Paris, on ne peut pas poser son hélicoptère.
C'est vrai.
Voilà le programme donc, de ce richissime prince saoudien qui vient en France une dizaine de jours.
Voilà, tapis rouge aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas.
Non, il a été, lorsqu'il a été nommé, hein, très jeune, en 2017, il avait à peine 31 ans lorsque son père l'a désigné prince héritier, alors qu'il n'était pas le fils ni le cousin aîné, ça n'aurait pas dû être lui, mais c'était le favori, il a été désigné prince héritier et premier ministre en même temps, et tout de suite, il est devenu absolument infréquentable, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il a aussitôt lancé une guerre au Yémen, contre une minorité houthi qui était soupçonnée d'être trop proche de l'Iran. Ça a été une guerre monstrueuse où l'Arabie Saoudite a utilisé ses avions, son argent, son armée pour tuer beaucoup de monde, y compris beaucoup de civils. Il était infréquentable aussi parce que jusqu'à son arrivée au pouvoir et dans les premières années, les conditions des femmes, on y reviendra, en Arabie Saoudite étaient les pires du monde. Il était infréquentable parce qu'il a un moment carrément enlevé le Premier ministre libanais Hariri. Hein, il l'a presque kidnappé pour lui forcer la main sur des histoires de politique libanaise. Et puis, il a aussi fait une sorte de coup d'État interne, une grande purge. Hein. Il a un jour rassemblé tous les princes, c'est-à-dire ses cousins, hein, et puis tous les milliardaires du pays, c'est-à-dire ses amis, ses cousins, les amis de son père. Et il les a enfermés, alors pas dans une prison, hein, il les a enfermés dans des palaces 5 étoiles, au Marriott et d'autres. Enfin, il les a fait prisonniers quand même. Assignés à résidence dans des hôtels de luxe jusqu'à ce qu'ils fassent allégeance, en gros. Hein. C'est comme ça qu'il a assis son pouvoir. Donc ça faisait beaucoup. Hein, il était extrêmement jeune, donc encore une fois, à peine la trentaine, extrêmement autoritaire, il faisait un petit peu peur à tout le monde, et puis, j'oublie, l'essentiel, c'est qu'il avait fait exécuter son principal opposant, qui était un journaliste réfugié aux États-Unis, qui s'appelait Jamal Khashoggi, qui a été coupé en morceaux, au sens propre. Hein. Oui. Ils l'ont coupé en morceaux dans les locaux du consulat saoudien à Istanbul, et la CIA a estimé que c'était un meurtre qui avait été directement commandité par MBS, donc ça faisait beaucoup.
Ouais, et les ONG alertent hein, à chaque fois que MBS revient sur le devant de la scène, notamment auprès de dirigeants occidentaux. Amnesty International dit qu'on redore le blason de quelqu'un qui ne le mérite absolument pas et rappelle que la peine de mort est monnaie courante en Arabie Saoudite. Hein, je crois que 1000 personnes ont été exécutées depuis l'arrivée au pouvoir de MBS depuis, on va dire, 2015 jusqu'à aujourd'hui. Et sur la question du droit des femmes, en revanche, l'Arabie Saoudite semble faire beaucoup de choses. En même temps, il faut dire que le pays part de très loin.
Oui, alors c'était vraiment un des pires pays du monde à l'époque. Il était classé dernier avec le Yémen et le Pakistan pour les critères d'égalité entre les hommes et les femmes. Alors depuis, le titre a été pris par les talibans qui sont revenus en Afghanistan. Mais surtout, depuis, il y a eu des changements en Arabie Saoudite. Il faut se rappeler donc, que quand il arrive au pouvoir en 2017-2018, les femmes n'ont pas le droit de conduire. Elles viennent à peine d'avoir le droit de vote et encore seulement aux élections municipales. Et lorsqu'elles sont élues, elles n'ont pas le droit de siéger avec les hommes. Il y avait une sorte de système de tutorat qui faisait qu'une femme n'avait rien le droit de faire sans l'autorisation de son tuteur. Le tuteur, c'était son père jusqu'à son mariage et son mari à partir du moment du mariage. Et une femme n'avait pas le droit de voyager sans l'accord de son mari. Elle n'avait pas le droit de travailler sans l'accord de son mari. Elle n'avait pas le droit de conduire. Un mari pouvait porter plainte contre sa femme pour désobéissance, simplement parce qu'elle avait disparu de la maison sans le prévenir. Ouais. Et la police se mettait en chasse pour retrouver la désobéissante et la ramener à la maison. Un mari avait le droit de divorcer sans prévenir sa femme. Il allait au commissariat, il disait « je souhaite le divorce » et elle était alertée par un SMS qu'elle n'était plus mariée, qu'il fallait qu'elle retourne chez son père ou qu'elle se trouve un autre tuteur. Tout ça, c'était vraiment il y a encore quelques années. Et ça a effectivement changé très très vite. En 2018, il y a eu le droit des femmes à conduire, ce qui était quand même très, très symbolique. Mais en même temps, les militantes qui avaient été... et notamment une Saoudienne qui avait grandi en France, qui était une des principales opposantes sur ce thème du droit à conduire. Elle en avait fait un combat. Elle était en prison à l'époque. Oui. Elle a été torturée en prison. Elle a subi des humiliations sexuelles, etc.
Pour les femmes,
pour pouvoir avoir le droit de conduire. Et quand MBS a finalement accordé le droit aux femmes de conduire, il n'a pas libéré ces militantes. Hein. Le message, ça voulait dire « Ok, vous avez le droit de conduire, mais vous n'avez pas le droit de vous opposer à moi.
Ouais, »
On restait quand même en prison pour s'être opposé à lui. Donc voilà. C'était des conditions absolument épouvantables. Ça a changé très, très, très vite. Il ne faut pas dire que, naturellement, on reste quand même dans un pays de patriarcat, etc.
Oui, ce n'est pas l'égalité homme-femme totale. Voilà. On est encore très loin.
Mais sur un certain nombre de symboles, notamment le droit de travailler. Les femmes ont le droit désormais de travailler sans demander l'avis de leur mari. Et elles le font, puisqu'il y a presque 40% maintenant des Saoudiennes qui travaillent. Elles ont le droit de voyager à l'étranger sans être obligées de prouver que leur mari est d'accord. Et puis, il y a même, c'est quand même un symbole, il y a même actuellement dans l'espace une astronaute saoudienne. Oui. Il y a deux Saoudiens, dont une femme, qui sont actuellement dans la station spatiale internationale. Donc, c'est quand même assez spectaculaire de se dire que cette femme n'avait pas le droit de conduire il y a 5 ans et qu'aujourd'hui, elle pilote des fusées.
On se réjouit pour les femmes saoudiennes, évidemment, mais ce n'est pas dénué non plus d'une certaine volonté de donner une autre image de son pays de la part de MBS.
Il a besoin de changer l'image, il a besoin notamment du tourisme à terme, parce qu'il faut commencer à penser à l'après-pétrole. Hein. Pour l'instant, c'est le premier exportateur du monde de pétrole. C'est ce qui fait sa puissance, c'est ce qui fait qu'il est revenu dans le jeu, que Macron le reçoit, que Biden s'est déplacé en Arabie saoudite. Donc Mais il n'y aura pas toujours du pétrole et il faut penser à la suite. Et la suite, c'est un peu sans doute aussi le tourisme et le business et les affaires. Il faut des échanges et il faut donc pour ça changer l'image. C'est ce qu'ont fait ces deux petits voisins, Dubaï et le Qatar, avec lesquels ils s'entendent très très mal d'ailleurs, et qui eux, depuis 30 ans, ont compris qu'il fallait penser à l'après-pétrole. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient moins de pétrole que l'Arabie saoudite. Mmh. Ils ont pris les devants. Lui, il arrive effectivement en retard, mais il a effectivement aujourd'hui décidé d'ouvrir son pays parce que ce sera nécessaire quand il ne sera plus le roi du pétrole. Alors, ça passe par le football. Hein. Ouais. On en a beaucoup parlé.
Récemment, effectivement.
Ronaldo, Benzema qui vient, N'Golo Kanté qui a signé, même Messi était sur le point de signer. On lui offrait un pont d'or, finalement. Ouais. Ça l'honore, il ne l'a pas pris. Donc, ça passe par le football. Et puis, ça passe par quelque chose qui est très, très spectaculaire et qui vient de se passer. Sur le site du ministère du tourisme de l'Arabie saoudite, il y a les questions les plus fréquemment posées. Vous savez, et il y a la question, est-ce que les homosexuels sont bienvenus ? Et la réponse est oui. La réponse, c'est oui, les homosexuels, tout le monde est bienvenu au royaume saoudien, dit ce site officiel. Non, les homosexuels et les couples non mariés, alors que la loi interdit encore le concubinage entre deux personnes non mariées et l'homosexualité, naturellement.
Qui est passible de la peine de mort.
Reste sur le papier passible de la peine de mort, mais qui n'a plus, depuis plus de 20 ans, été appliqué pour des homosexuels. Tout ça montre qu'il y a une volonté de changement.
Et puis alors, volonté d'ouverture, d'ailleurs, il faut le préciser, l'Arabie saoudite est longtemps restée fermée aux touristes qui n'étaient pas des pèlerins, qui faisaient leur pèlerinage à la Mecque. Donc c'est quand même une révolution d'ouvrir le pays à des non-musulmans.
Les non-musulmans qui étaient des impies et qui, effectivement, n'avaient pas le droit d'aller partout et encore aujourd'hui ne peuvent pas très facilement se rendre, par exemple, à la Mecque. Mais ce pays veut faire venir les touristes. Ce pays a compris, en regardant ce qui se passe juste à côté à Dubaï, à quel point on peut faire venir le monde dans cette péninsule arabique.
Et alors, il y a du patrimoine en plus qui est classé à l'UNESCO, donc il y a des choses à voir, à découvrir dans cette péninsule.
Alors il y a une côte sur la mer Rouge qui est exceptionnelle, absolument pas construite, restée absolument sauvage, donc c'est un potentiel touristique énorme. Il y a des montagnes sur lesquelles il y a parfois de la neige en hiver. On peut même éventuellement faire du ski. Et ils ont obtenu les Jeux asiatiques, l'organisation des Jeux asiatiques d'hiver. Donc, on va skier en Arabie saoudite. Bon. Mais tout ça est absolument désert. Et donc, pour faire venir les touristes, il faut construire quelque chose. Et là, il y a un projet pharaonique qui s'appelle Neom, qui a été lancé il y a quelques années et qui commence... Les premiers coups de pelleteuse commencent maintenant. Alors, c'est une énorme cité touristique au bord de la mer, extrêmement luxueuse. Et puis, c'est surtout ce qu'on appelle « the line », la ligne. Et alors ça, c'est une sorte de ville qui ne sera qu'une seule rue, un peu large comme les Champs-Élysées. Donc, imaginez les Champs-Élysées, très vert, au milieu. Et des deux côtés des Champs-Élysées, vous construisez des immeubles très fins, un de chaque côté, à droite et à gauche, des immeubles de 500 mètres de haut, une fois et demie la tour Eiffel. Donc, des espèces de gratte-ciel que l'on construit le long de cette avenue. Mais ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est la longueur de l'avenue. Ouais. Les Champs-Élysées, c'est 1,8 km, je crois. Ouais. Là, c'est 170 km. Ça va partir de la mer et ça va aller jusqu'au fond des montagnes, les plus belles montagnes d'Arabie saoudite. Et vous aurez donc ces deux gratte-ciel en longueur. Ouais. avec au milieu un métro ultra rapide qui permettra donc de rejoindre la mer et les montagnes, et puis des centres commerciaux, et puis des centres sportifs, et puis de la verdure. Tout cela va coûter 500 milliards de dollars.
Voilà.
Et à terme, près de 10 millions d'habitants habiteront dans cette ville exceptionnelle. Donc, c'est un projet pharaonique.
Incroyable.
Le prince MBS est sans doute l'homme qui est en train de lancer le plus grand chantier de la planète.
Ouais, et faire rentrer l'Arabie Saoudite au 21e siècle, quand les femmes saoudiennes sortent à peine
du Moyen-Âge. Ouais.
C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner. Nous sommes présents sur toutes les plateformes et sur le site et l'appli RMC. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Nicolas.
À la semaine prochaine, Pierre.
Retrouvez Nicolas Poincaré tous les matins à 6h50 et 7h50 dans Apolline Matin sur RMC.